Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme. C'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Steve Savidan, avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première heure. On remercie Chris d'être venu nous livrer ses impressions sur l'orientation que va prendre le Brésil sur cette Coupe du Monde.
Bon, la victoire.
Il est quand même sceptique. En tout cas, nous, demain, c'est le début de la Coupe du Monde et c'est l'émission exceptionnelle qui sera délocalisée sur les grands boulevards. À la brasserie Le Flora.
Exactement.
On sera
en
là.
Plein cœur de Paris.
On sera là en plein cœur de Paris. On va se régaler avec du public et tout. Ça va être fantastique.
Pour lancer les soirées Coupe du Monde.
Ça va être magnifique. Franchement, toute la Dream Team sera là. Venez vous régaler avec nous quand vous sortez du boulot. Vous venez vous, vous arrêter et vous passez un bon moment avec nous. 18h-20h du lundi au vendredi. La brasserie Le Flora sur les grands boulevards. On va se régaler tout au long de la Coupe du Monde. À 19h45 aujourd'hui, le quiz. Tous contre Roten a gagné un séjour dans un des 400 campings Omer. Camping 4 et 5 étoiles en France ou en Europe. Pour tenter votre chance, 32-16 touche 4 ou quiz par SMS au 7-32-16. Un débat engagé à 19h30.
Comme d'hab.
La VAR de Roten s'enflamme. Les problèmes de visa, le traitement réservé à l'Iran. Est-ce que les joueurs doivent manifester leur mécontentement? 32-16 pour participer avec nous. Mais tout de suite, soyez bien attentifs parce que Steve va nous décrypter la stratégie du Real Madrid.
Moi, ce que j'aimerais bien, on s'est retrouvé un peu. C'est ce poids de l'institution. On était une institution forte et c'est plus le cas maintenant.
Quand tu es dans un cycle, le avant, pendant et après, le après n'existe plus.
C'est le club qui représente, qui caractérise la grandeur. Le Real, c'est le club référent, je pense, au niveau mondial.
Parce que le après devient déjà le avant.
Uno, dos, tres, à la Madrid.
Là-bas, il y a le poids de l'institution. On l'a vu lors de sa présentation au stade Bernabéu.
Je pense qu'il va falloir trouver des conseillers et des entourages un peu mieux parce que je pense qu'il est à la fin de sa carrière, c'est évident.
En fait, le pendant, une fois que tu es sorti du pendant, tu es déjà sur le avant de quelque chose. D'autres.
El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
Il me fait ça, je l'attends, et j'ai du même putain de coup de tête.
Le Real confirme avoir adressé une offre de 150 millions d'euros à Julian Alvarez, offre qui a été refusée par les Colchoneros.
On s'est vraiment rendu compte qu'on apprenait aussi bien en regardant qu'en faisant. Et voilà, c'est un truc de fou.
Son dos cosas necesitas.
Non, moi j'ai tout compris, ça y est. T'as compris Jérôme?
Ah ouais, tout.
Franchement Jérôme, tu sais que génial, si je t'avais eu dans les mains en prépa mentale, t'aurais été meilleur que tu n'as été.
Mais ça c'est sûr.
Un très haut niveau. Ouais. Je pense que t'aurais gagné la Ligue des Champions.
Moi,
et tu n'aurais pas été que le meilleur passeur de la Ligue des Champions.
Exactement.
Et sauf que tu vois, la Ligue des Champions, tu la gagnes. Non mais la Ligue des Champions, tu la gagnes pas tout seul.
Ah, mais c'est pour ça que ce qui est important,
donc
c'est
il aurait fallu que tu soignes les têtes de mes coéquipiers.
On ne soigne pas les têtes, on prépare les têtes. C'est exactement. Pas pareil, la préparation
si Steve s'était occupé de la préparation mentale de Monaco.
Ils ont fini champion, ton club de handball, là, ou pas?
Non. À Aix-en-Provence, non.
Un maintien facile.
Franchement, si tu regardais.
Ah oui. Alors.
On a gagné ce week-end. C'était très, très bien.
Bon, t'as pas évolué entre le hand et le foot, quoi.
Alors.
Ou le maintien, quoi.
Je t'emmerde.
À quoi joue le Real Madrid? Parlons-en. Avec plusieurs infos qui se succèdent concernant le Real. L'officialisation de l'arrivée de José Mourinho, ça est tombé hier soir. Et puis, il y a deux jours, c'était la réélection de Florentino Pérez. Et hier, on a donc appris que le club avait transmis une offre de 150 millions d'euros à l'Atlético pour recruter Julian Alvarez, un joueur qui est également ciblé par le Barça. Une offre qui a été immédiatement refusée par l'Atlético. Annonce faite sur les réseaux. D'ailleurs, sur les réseaux, on se régale de voir les guéguerres entre l'Atlético, le Barça et le Real. C'est vraiment un bonheur depuis quelques jours. Parlons-en avec Edgar Grollo, qui est notre correspondant en Espagne, mais qui est aujourd'hui à Mexico. Salut Edgar.
Il a choisi.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde. Je suis devant le stade Azteca.
Ah bah alors raconte-nous, parle-nous de l'ambiance qui règne là-bas.
Écoute, ça monte tranquillement. Hier, il y avait beaucoup de monde dans les rues avec les maillots des différents pays, beaucoup de maillots mexicains, beaucoup de musique partout. Alors, j'ai pas beaucoup visité la ville encore, mais c'est très coloré. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. Les gens sont très chaleureux et c'est très sympa. Ça fait très ambiance Coupe du Monde. Et là, j'ai le stade en face de moi qui va donc accueillir son troisième match d'ouverture dans son histoire.
Ah ouais.
C'est vraiment un lieu historique où Pelé est passé, Maradona est passé. et ça nous promet un très très beau match. Et en plus, l'affiche de demain, Mexique-Afrique du Sud, ça pue la Coupe du Monde.
C'est un stade magnifique et qui sera match qui sera magnifiquement commenté sur RMC à partir de 21h avec toi et avec Jean-Louis Tour. On va se régaler tout au long de la Coupe du Monde. Parlons donc du Real, ton sujet de prédilection, Edgar. Cette tentative de recrutement d'Alvarez, est-ce que c'est une vraie tentative ou c'est juste un effet d'annonce de la part de Florentino Pérez, à ton avis?
C'est vrai que on a entendu des extraits dans ce que vous avez diffusé juste avant que tu prennes la parole, et on entend Florentino Pérez promettre une grande offre, promettre 150 millions d'euros, promettre en fait finalement qu'il va recommencer à investir comme il le faisait avant, parce que la stratégie du club sur les dernières années, ça a été de prendre des joueurs en fin de contrat et d'investir sur les jeunes joueurs. Là, il a promis de tenter un recrutement style Galactico. Et finalement, quand on voit que c'est Julian Alvarez, il y a pas mal de raisons qui nous poussent à pousser que c'est plutôt un effet d'annonce et que c'est vraiment quelque chose pour dire voilà, j'ai tenu ma promesse de faire cette offre-là, mais c'était avant tout pour gagner cette élection, déjà parce que Julian Alvarez, son profil sportivement, ça n'a pas vraiment de sens de mettre 150 millions d'euros sur lui aujourd'hui. En plus de ça, ça colle pas vraiment avec l'image de Galactico qu'on nous a vendu sur une semaine, même si c'est un excellent joueur. On s'imaginait des joueurs comme Olise, des joueurs comme Vitinha qui sont au-dessus de ça. Donc côté Real Madrid, on a tout pour croire quand même que c'était pas vraiment une offre extrêmement sérieuse, et surtout quand on voit qu'il y avait un communiqué d'annonce de l'échec d'une offre. C'est quand même quasiment du jamais vu. Ouais. On voit jamais ça, donc c'est vraiment pour communiquer sur le fait qu'il a tenu sa promesse. Et puis ce qui peut nous pousser aussi à penser que c'est un effet d'annonce, surtout, c'est que côté Atlético, ce transfert n'avait pas de sens non plus. Et d'ailleurs, côté Atlético, c'est vraiment le club est vraiment le grand gagnant de cette histoire, parce que eux, ils ont un joueur avec lequel ils sont déjà, on va dire, menacés par le Barça. Ils sont très difficiles dans les affaires avec lui. Et là, ça va tout simplement permettre de faire monter les enchères autour de Julian Alvarez, de montrer au monde qu'il rigole pas et que même 150 millions, ça ne suffit pas. Donc globalement, de A à Z, dans ce petit feuilleton, il n'y a pas grand-chose qui nous fait penser que ça aurait pu vraiment arriver à un transfert à la fin de Julian Alvarez vers le Real Madrid.
Merci Edgar. Roten se chauffe. À quoi joue le Real Madrid, Jérôme, alors? Est-ce que tu comprends toute cette stratégie depuis la réélection de Florentino Pérez?
Non, mais moi, il y a des choses qui me dépassent. Déjà, on y voit un peu plus clair dans les propos d'Edgar, mais c'est vrai que rien que le profil de Alvarez, moi je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je vois pas où est l'intérêt de recruter un joueur de cette
Si tu sais, Jérôme.
Non.
Tu le mets en numéro 9 et tu décales Mbappé à gauche, là où il est plus performant.
Okay,
c'est tout, c'est clair.
Vinicius, alors. Après Vinicius,
Vinicius
quoi,
à droite, et puis c'est tout.
D'accord.
Et puis bah ça fait 5 ans qu'il a plus joué.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il a été recruté pour marquer des buts et que Mbappé,
parce que les joueurs n'évoluent pas.
Non, mais
ce que je veux dire,
non, mais Steve,
là tu prends un numéro 9.
Non, mais Steve, tu peux avoir un avis différent. Ce que je veux dire, c'est que moi j'y crois pas une seule seconde.
Ah, moi non plus, j'y crois pas.
Déjà parce que pour moi il y a la stratégie, elle est pas bonne. Que en effet il y a d'autres joueurs à recruter au Real aujourd'hui pour permettre d'avoir un collectif bien plus huilé qu'il l'a été cette année.
Des promesses de campagne. Tu sais, ça c'est dans notre monde de tous les jours, que ce soit en France ou ailleurs.
Les promesses, je pense que Florentino Pérez, il n'avait pas besoin de faire une promesse de recruter Alvarez pour être réélu. La promesse Mourinho, je pense qu'elle a marché, en effet, parce que Mourinho reste très coté à Madrid.
Et elle s'est concrétisée.
Et les gens sont contents de le retrouver. Donc tant mieux pour les supporters. Hein, si les socios de Madrid, s'ils sont contents de retrouver Mourinho sur leur banc de touche, peut-être que lui va montrer un collectif bien plus fort qu'il l'a été, avec une ligne de conduite bien précise. Et dans ces cas-là, cette ligne de conduite, et là je crois plus à Mourinho sur la façon de faire évoluer son équipe, quel poste il a besoin de renforcer son équipe. Et il y en a beaucoup de postes. Déjà, à commencer par la charnière centrale, à commencer aussi ensuite par son milieu de terrain. Là, oui, c'est des postes qui ont
monté. Konaté, hein.
Qui ont monté. Oui, bah, et Konaté. Alors, Konaté, on est d'accord que Konaté aujourd'hui est pas dans sa meilleure période et sa meilleure forme. Mais s'il retrouve son niveau, qui a fait de lui un des meilleurs défenseurs en Angleterre il y a deux ans, eh ben, écoute, pourquoi pas? C'est un vrai renfort. mais il faut juste voir si ça va fonctionner à Madrid dans ces conditions-là. Et puis surtout, je te dis, Konaté c'est bien, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent à mettre d'abord du talent sur le terrain, parce que c'est bien là que ça manque au Real. C'est que je veux bien qu'on mette des individualités offensivement, que ça fait parler ou quoi que ce soit, mais derrière, il y a une structure différente à mettre en place. Et je pense qu'avec Mourinho, peut-être qu'ils vont y arriver, mais pas avec l'arrivée d'Alvarez, ça c'est sûr.
Duga, est-ce que tu comprends ce que fait le Real ?
Bah pas trop, je crois que ça navigue à vue un peu depuis ces dernières années. Ils savent pas où ils vont. On l'a vu avec le choix des entraîneurs après Ancelotti. Ils ont pas laissé travailler Xavi Alonso. Ils mettent après l'entraîneur de la réserve. On sait pas trop où ça va, dans quel sens ça va. On sent qu'il y a des forces politiques différentes dans ce club. Le président, les conseillers, ils ont pas tous le même avis, ils ont pas tous les mêmes envies. Bon, écoute, il y a eu cette élection prématurée. Ça a été la volonté du président pour confirmer son pouvoir. À l'arrivée, la première chose qu'il fait de ce pouvoir-là, il choisit Mourinho. Bon, moi, je suis pas grand fan, mais pas. Et après, on nous sort cette histoire abracadabrantesque avec l'Argentin.
Elle va raison.
Écoute, je comprends pas ce qu'ils ont envie de faire. Je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire. En attendant, il y en a qui avancent. Il y a des clubs qui avancent. Il y a des clubs qui se structurent. Il y a le Bayern de Munich. Il y a le Paris Saint-Germain. Et t'as le Real Madrid on a l'impression qu'il a perdu un peu le fil. Et même eux, je trouve que dans leur choix, tu dis stratégique, on sait pas où ils vont. C'était un club avant-gardiste sur beaucoup de choses. Et là, à part recruter des joueurs en fin de contrat, des joueurs libres, c'est la seule idée qu'ils ont. Rappeler un entraîneur qui a déjà été au Real Madrid, qui a plus rien réussi depuis je sais pas 5, 6 ans, 7 ans, il a plus rien gagné.
Il a gagné
la Ligue Europa, mais bon.
Bah oui, c'est pas rien quand même. Oui, il a gagné le championnat, Fenerbahçe, ça va quand même. Championnat du Portugal. Okay. Bah non, mais il gagne.
Non mais je sais pas, Special One, c'est normalement,
on est d'accord.
Il aurait jamais dû aller à Besiktas, il aura jamais dû à Benfica, il est plus demandé nulle part, il a plus rien réussi,
grandiose. Benfica.
Il a pas gagné avec Fenerbahçe.
Pardon?
Non mais il a pas gagné ni avec Fenerbahçe, ni avec le Benfica. Les derniers trophées qu'il a gagné, c'est une Coupe d'Europe avec la Roma, je crois.
Voilà, alors tu vois, donc ça remonte. Donc écoute, je comprends pas où ils vont et j'ai l'impression qu'ils sont perdus. Alors est-ce que ce monsieur Pérez, c'est l'âge, je sais pas, est-ce qu'il a plus d'idées, est-ce qu'il est mal entouré, est-ce que je sais pas, on sent que c'est un club qui navigue à vue et c'est bien évidemment très dérangeant parce que je vois pas comment ils vont s'en sortir parce qu'il y a des clubs qui avancent, il y a des clubs qui ont pris de l'avance. Alors tout le monde va pas bien, mais c'est vrai qu'on sent quand même que des clubs comme le Barça qui a retrouvé aussi une solidité financière aussi va pouvoir acheter des joueurs. On sent que le Bayern a beaucoup avancé, le Paris Saint-Germain, les clubs anglais qui ont beaucoup de moyens. Que fait le Real ? Voilà, moi je me pose des questions. Que fait le Real ? Et pour moi, c'est une énorme inquiétude.
Edgar, est-ce
que je te confirme qu'on.
Vas-y.
Ouais, non mais exactement. Pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, on ne sait pas où ils vont parce que cette offre de 150 millions, on ne sait pas si c'était juste un effet d'annonce pour l'élection et pour gagner l'élection ou si c'était aussi un effet d'annonce pour dire attention. On est de retour, maintenant on va recommencer à mettre des sommes importantes sur des joueurs. Parce que si c'est juste pour dire « Ah bah vous voyez, en fait on n'a pas réussi » et recommencer la même stratégie, c'est quand même différent. Et faut pas non plus écarter la possibilité de se dire que peut-être Florentino Pérez a modifié un petit peu sa façon de penser par rapport aux dernières années et que ces 150 millions d'euros-là, peut-être que ça marche pas avec Roy Alvarez ou que là c'était que pour l'image parce qu'il était dans l'urgence, peut-être qu'il les mettra sur un autre
ou sur deux autres.
Duga l'année dernière, et je parle sous le contrôle d'Edgar, ils ont quand même recruté des joueurs très chers.
Oui.
Oysen derrière, c'est très cher. L'arrière gauche, là.
Carreras et Mastantono. Oysen, Carreras et Mastantono.
Mais t'imagines que ces trois joueurs-là.
Mais c'était des jeunes, c'était des investissements sur des jeunes, et ça, c'était la stratégie sur les dernières années. C'est pas des cadres que tu sais qui vont déjà être performants.
Non, mais ça, on est d'accord, sauf que quand tu fais la somme globale de ces trois joueurs-là, tu dépasses les 200 millions.
Ça fait déjà beaucoup.
Quasiment, non ?
Oui.
Ouais.
C'est une question de ventilation.
Ah oui, non mais oui, clairement, t'es sur un investissement très important. Rien que Maston Tonneau, par exemple, c'était environ 60 millions, alors que c'était un joueur qui avait joué que dans le championnat argentin et qui connaissait pas encore le football européen. Hein, donc, Carreras, c'était presque la plus grande certitude entre guillemets parce qu'il joue déjà au Benfica. Et Hussein, là aussi, t'as mis plusieurs dizaines de millions d'euros pour un joueur qui joue à Bournemouth. Donc, c'est vraiment des prises de risque qui ne vont pas vraiment en plus avec les anciennes stratégies de Florentino Pérez.
Tu y crois, Edgar, à une folie à la 180-200 millions pour un joueur comme Olysée, ça c'est possible quand on est au Real ?
Aujourd'hui, en tout cas sur ce mercato-là, j'ai du mal à y croire, sauf si y a un gros départ. C'est ça la question.
Non, en plus,
fait,
il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'ils essaient d'acheter des joueurs.
Tu peux pas en fait avec cet effectif.
Joueurs qu'ils peuvent avoir. Non. Ils n'auront jamais Olysée, même à 200 millions, ils n'auront pas Olysée.
Oh, 200 du gars, pourquoi ils l'auraient
mais
pas
non, le Bayern est tellement fort financièrement, ils vont pas renforcer un concurrent aussi fort.
Bah, il y a peut-être des sommes qui sont irrefusables. Hein,
non, mais de toute façon, le sujet, on tourne autour du pot encore une fois. Le Real, c'est surtout quel poste ils vont vouloir renforcer. S'ils veulent encore des joueurs, offensifs, les places, elles sont quand même prises.
Ils ont pris Dumfries aussi, latéral droit. Ça fait deux recrues déjà défensives.
Il faut des milieux de terrain.
Il faut surtout vendre des joueurs avant d'acheter. Ouais, parce que là, t'as trop de joueurs qui vont pas ensemble, qui sont au même poste. Regarde le poste d'Olysée, par exemple. Ouais. Non, alors, on est tous d'accord qu'ils sont pas au niveau sur l'aile droite. Mais théoriquement, sur le papier, t'as déjà Maston Tonneau, Rodrigo, même s'il est blessé, Brahim Diaz qui joue souvent ce côté-là. Il faut vendre quelqu'un.
Mais comment on peut dire qu'ils ne vont pas ensemble? Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions il y a que 2 ans. Comment on peut dire? Non, mais il faut toujours le dire. De toute façon, il n'y a pas de souci. C'est que,
parce que t'avais d'autres joueurs aussi autour.
Parce que t'as Mbappé qui a déstabilisé un collectif huilé, une formation huilée, un apport des jeunes huilé, que tu n'as pas pu emmener vers le haut niveau. Et honnêtement, il a aimanté tout ce jeu offensif du Real Madrid. Et aujourd'hui, la question que se pose Pérez, c'est comment ne pas pouvoir se séparer de Mbappé? C'est comment ramener des joueurs? Parce que si on parle de gros départ, qui c'est qui va partir et qui c'est que ça saoule? Vinicius. Rodrigo.
Et Vinicius n'a toujours pas prolongé d'ailleurs. Ça, c'est un gros dossier pour Pérez. Ça, c'est sûr.
Parce qu'ils peuvent plus jouer.
Tu dis, Steve, tu dis que le Real doit se séparer de Mbappé.
Non, c'est pas ce que je te dis. Non, Pérez ne se séparera pas de Mbappé. Mais aujourd'hui, c'est plus facile de se séparer de Vinicius et Rodrigo que de Mbappé, bien sûr. Parce que c'est lui qui l'a fait venir, c'est le projet de son.
C'est ta vedette.
C'est son projet de carrière presque, tu vois, de revenir à ce grand Real de Madrid,
la saison, excuse-moi l'expression, mais la saison merdique du Real Madrid, c'est quand même pas la faute d'Mbappé quand même.
Mais c'est pas ce que je te dis. Je te dis, ils sont doubles, champions d'Europe. C'est pas ce que je te dis, c'est qu'il a déstabilisé un collectif bien huilé et un vestiaire bien huilé.
Il y a 2 ans.
Oui, il y a 2 ans.
En Europe, il y a 2 ans avant
Mbappé. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on n'a pas trouvé les clés pour jouer avec ta superstar qui est Kylian Mbappé et l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est un fait. Et maintenant, t'as un mec qui commence à. On l'a vu, qui a sous-joué quand Mbappé était là, c'était Vinicius. Ça, il n'y a pas de. Tu regardes les matchs, tu regardes. Rodrigo, c'est compliqué. Bellingham, c'est compliqué. Donc, tout ton dispositif offensif, il faut le changer. Tout en sachant que tu veux garder Mbappé. Donc, tes valeurs marchandes, tes actifs de faire partir offensivement. Tes grosses valeurs, c'est qui? C'est Bellingham, Vinicius, Rodrigo.
Fais appel au comptable de nouveau.
Eh ben oui, c'est la ventilation.
Cherche pas.
Tiens, Yannick.
De toute façon, pour parler de départ de certains joueurs, ce qui est sûr, c'est que Mourinho, il sera obligé de faire du tri dans le vestiaire.
Oui.
Et quand tu vois l'entente entre certains, Bellingham, on sait très bien qu'il s'entend pas du tout avec Mbappé. Il s'entend pas beaucoup avec beaucoup de joueurs aussi dans le vestiaire, mis à part les Français. Non, mais c'est la vérité. Donc après,
c'est aussi dû au contexte de la saison qui a fait qu'il y avait des tensions dans le vestiaire, etc.
Il y a toujours des excuses.
Oui, mais sauf que Edgar, là-dessus.
Non, mais c'est une réalité. Mais ça aussi a été aggravé par le contexte de la saison.
Mais ça, on est d'accord. Quand tu gagnes, Edgar, c'est toujours, on est passé par là, c'est toujours plus facile de mettre de côté un petit peu les animosités de chacun. Par contre, quand tu perds, et ça sera le cas par moment du Real l'année prochaine, ils gagneront pas tous les matchs, automatiquement il y a des choses qui ressortent. Et souvent, les problèmes relationnels entre certains sont mis en avant, les égos de certains aussi, et je pense en effet que Mourinho, là-dessus, il va être obligé de trancher dans le vif.
Accueillons Yannick, supporter du Real au 32-16, Jérôme.
Salut Yannick.
Bonjour messieurs.
Ça va Yannick?
Ça va?
Tranquille, hein, tous les jours sa petite dinguerie de la journée, quoi. On s'en dépense.
Ah ouais, tu te régales avec les communiqués?
Ah, c'est génial, là, tous les jours on a un petit truc là. Mais bon, écoutez, c'est pas comme si on avait pas bien fait toute l'année.
Quand t'as vu Julian Alvarez, qu'est-ce que tu t'es dit en tant que supporter du Real?
Alors, je me suis dit déjà que je comprenais pas comment on pouvait foutre 150 millions sur Julian Alvarez, parce que c'est quand même un bon joueur, mais c'est pas non plus un joueur exceptionnel. Deuxièmement, je me suis dit que quitte à foutre 150 millions, c'était pas vraiment la priorité du moment. Même, je vais vous dire, même 200 millions sur, enfin, même si on met 200 ou 150 sur Olise, pour moi, c'est pas le problème, en fait. Pour moi, le problème, et vous en parliez sur les joueurs qu'il faut qu'ils partent.
C'est pas la priorité.
Pour moi, il y a un problème, c'est Bellingham, en fait. Le problème, c'est l'animation Bellingham-Mbappé. Donc, pour moi, celui qui devrait partir, si vraiment tu faisais un choix intelligent, tu vends Bellingham et t'achètes un Vitinha. Alors, Vitinha ou même profil, mais je veux dire.
Vitinha, intransférable.
Oui,
mais ces joueurs-là, ils viendront jamais.
Un Vitinha, ce genre de profil, quoi. Je veux dire, il faut quelqu'un qui amène de la stabilité, de la création.
Quel intérêt de partir de l'équipe qui a fait le back-to-back?
Oui, bah, ça va.
Non, mais ça, après, je veux dire, quand je dis Vitinha, ça peut être, Un Enzo Fernandez, par exemple.
Enzo Fernandez, c'est plus probable, ça, c'est sûr.
Back-to-back.
Là, Yannick, il faut faire quelque chose. Est-ce que le Real pourrait devenir le Real? Pour qu'on arrête de supporter ça tous les jours, Yannick. Fais quelque chose, on n'en peut plus, c'est pas possible.
Imagine s'ils ont gagné le troisième.
Ah ouais, en tout cas, on a moins parlé. C'est terrible, non, mais Yannick.
J'aime pas spécialement le PSG, mais on peut pas dire que c'est immérité non plus. Non,
ah, alors, c'est sûr. C'est sûr, on est meilleur club du monde.
Ouais, mais rien que d'écouter Jérôme, on a les boules qu'ils aient gagné.
C'est sûr. C'est à cause de Yannick que ça devient un petit patron.
On était content et lui, il est en train de nous retourner.
Exactement.
Non, déjà, arrête de dire tu as les boules, oui, mais mélange pas les gens aussi.
Voilà. Yannick, merci d'être venu au 32-16. Hein. Reste à l'affût des infos Real Madrid signé Edgar Grolo. Tu rappelles quand tu veux pour parler du Real ou d'un autre sujet. Salut Yannick.
Merci Yannick.
Ciao tout le monde.
Merci Edgar. Écoute, régale-toi au Mexique.
J'ai essayé de m'éloigner au maximum des polémiques en allant jusqu'au Mexique et ça m'a suivi jusque-là.
On te voit danser devant le stade Aztec. Incroyable. Hein. Ah, tu te régales. Merci Edgar. Et dans un instant, on reprend le rouge de la Coupe du Monde sur RMC, la barre de Rotten
Sans Flamme. Chico, arriva!
Imagine.
Aïe.
Il a coupé le micro.
Ah ouais, il a fait quelque chose. Est-ce que les joueurs doivent manifester leur mécontentement avec les problèmes de visa, le traitement réservé à l'Iran?
On débat avec vous.
On sera en direct de Boston avec Valentin Jamin, en direct toujours de Mexico avec Jean-Louis Tour.
Jean-Louis,
tout de suite sur RMC.
C'est jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h28 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme avec Steve Savidan, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron dans 15 minutes. C'est le quiz de Louis Gerbier en grande forme, je vous le dis. Il est en forme olympique, Louis Gerbier. Pourquoi? Parce que je crois que c'est son anniversaire demain.
Ah bon?
Ouais.
Ah bah écoute, on lui souhaitera.
Ouais.
Le jour du lancement de la Coupe du Monde alors. On rappelle, à partir de demain, Rotten sans flamme, en plein cœur de Paris.
Le jour de son anniversaire.
Dans la brasserie Flora, sur les grands boulevards, venez nous rejoindre à 18h-20h tous les jours pendant la Coupe du Monde. Le cadeau du quiz, un séjour dans un des 400 campings au mer, des campings 4 et 5 étoiles, 32-16 touche 4, ou quiz au 7-32-16.
Avec du gars dans le camping. Hein.
Avec du gars, bien sûr. Quel bonheur.
Il viendra faire une apparition.
Peut-être son frère.
Je fais le barbecue.
Ah, magnifique.
C'est
ou des tours de magie, sympa, c'est le Eric Antoine de Rotten sans flamme. Il fera peut-être des tours de magie.
Ça, c'est possible. Franchement, ça peut être sympa.
Allez, 19h30, Jérôme. L'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Omar Hartan est arrivé du côté de Miami. Il a vécu 11 heures d'interrogatoire, alors qu'on le rappelle quand même. C'est un arbitre officiel de la FIFA. Normalement, la FIFA doit organiser son déplacement. La FIFA doit organiser son accès au territoire américain. Et là, on n'a pas entendu un mot de la FIFA, juste pour dire ce sont les États-Unis qui ont la gestion de l'immigration sur leur territoire. On ne peut pas intervenir. C'est la seule phrase de la FIFA.
La VAR de Rotten sans flamme.
De nombreuses tensions à la veille du match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Mexique-Afrique du Sud. On rappelle que ce qui pose problème, c'est le traitement réservé à l'équipe d'Iran. On a appris hier que finalement la délégation iranienne pourra entrer sur le sol américain la veille des matchs. Les problèmes de visa aussi, vous avez suivi cette histoire sur rmcsport.fr. L'arbitre somalien Omar Hartan, renvoyé chez lui alors qu'il bénéficiait d'un visa d'entrée. La justification des autorités américaines, il aurait des liens avec des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. On rappelle que les conditions d'accès au territoire américain sont difficiles. Il y a également le problème du prix des places. On va prendre la température sur place avec Jean-Louis Tour qui est à Mexico. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Allez,
arrive,
parlons-en également avec Valentin Jamin qui lui est à Boston, qui attend l'équipe de France. Salut Valentin.
Bonjour à tous.
Salut. Bienvenue Valentin. Démarrons par toi Jean-Louis. Tu vas commenter le match d'ouverture demain, justement, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Et ce que tu vis au quotidien, c'est qu'il y a un sentiment mitigé chez les Mexicains. On est fiers d'accueillir la Coupe du Monde, mais on s'insurge contre le prix des places.
Oui, alors c'est ça, c'est un peu particulier parce que le Mexico va accueillir son troisième match d'ouverture de Coupe du Monde, donc c'est unique dans le monde. Après 86, après 70, donc ce sera demain le cas. Donc c'est un truc énorme. Ils savent le poids de l'histoire, les Mexicains. Mais en même temps, ce que me racontait un historien que j'ai pu rencontrer du Mexique, c'est la première édition où les vrais fans de foot sont éloignés du stade parce que les prix sont dingues. C'est-à-dire que là, dans les billets restants, le plus bas est à 1 500 €. Pour un salaire moyen ici au Mexique, autour de 700. Donc ça va être impossible d'y aller pour les habitués du foot au Mexique. Donc ils sont un peu remontés. Et il y a un autre truc, c'est l'ambiance générale un peu tendue. Hier, vous avez dû suivre ça, mais il y a eu des manifestations des enseignants parce qu'il y a un problème social au niveau de leur salaire. Donc il y a des manifestations énormes. Il y avait des milliers de personnes devant le stade Aztèque pour contester le gouvernement en place. Et donc aujourd'hui, ils sont revenus à la table des négociations. Il y a discussion, mais il y a quand même un appel à la grève encore et à la manifestation pour demain et pour le match d'ouverture. Et du coup, le gouvernement a quand même déployé, et c'est palpable, c'est visible à chaque coin de rue ici à Mexico, ce qu'ils appellent le plan Kukulkan, c'est-à-dire un grand plan où ils mobilisent 100 000 militaires, policiers fédéraux, policiers nationaux, guardas civils, pour essayer de faire en sorte de faire des zones où les gens ne pourront pas venir manifester. On parle d'une zone autour de 1,5 km autour du stade Aztèque. Donc les militaires, ils sont vraiment partout. Il y a aussi des avions, des hélicoptères. Enfin voilà, c'est un truc énorme parce qu'il y a à la fois les problèmes sociaux dont je vous parlais et également la menace d'insécurité des cartels.
Merci Jean-Louis, bonne soirée à toi. Tu es très occupé, il y a plein de choses à faire au Mexique. On te retrouvera demain dans Rotten sans flamme. Je précise d'ailleurs que Gianni Infantino, le président de la FIFA, prendra la parole dans quelques minutes à Mexico en cette veille de match d'ouverture. Parlons également avec toi Valentin des conditions d'accès qui attendent les Bleus ce soir à Boston. Est-ce qu'on est sûr que l'équipe de France va passer les contrôles sans encombre, qu'il n'y aura pas de problème pour les Bleus?
Ouais. Normalement oui, pour plusieurs raisons, parce que les Bleus sont venus ici en mars et ça s'était vraiment bien passé à Boston. Il y a des bonnes relations avec les autorités du Massachusetts. C'est aussi parce que Mohamed Sanadji, qui est monsieur sécurité de l'équipe de France, a géré tout ça en amont, parce qu'évidemment les passeports, les visas, etc., ça s'est réglé par le staff des Bleus et donc par Mohamed Sanadji. Normalement il n'y aura aucun problème pour l'équipe de France. Nous par exemple, en tant que Français d'ailleurs, on n'a pas eu de soucis pour entrer. Ils ont vérifié le matériel et quand même on sent que les douanes sont très j'allais dire à cran, vérifient énormément de valises. Mais en tant que Français par exemple, on n'a pas eu de problème. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut le dire assez clairement, il y a de la discrimination parce qu'il y a une liste qui a été émise il y a plusieurs mois aussi par les autorités américaines de 19 pays, ça concerne les supporters, 19 pays, pour une suspension de la délivrance de visa aux ressortissants étrangers pour, je cite, préserver la sécurité des États-Unis. Donc pas de visa pour les supporters haïtiens, ivoiriens, sénégalais. On parlait même de caution à déposer à une époque de 5 à 15 000 dollars pour certains ressortissants, ça a finalement été annulé. Donc il n'y a pas d'inquiétude majeure pour les Bleus qui ne sont pas concernés par ce qui s'est passé pour l'arbitre somalien par exemple, pour les Iraniens qui ont eu leur visa en dernière minute, mais les joueurs, parce que certains membres de la délégation dont le président de la Fédé ne pourra pas aller au match. Et on rappelle aussi que l'attaquant irakien Ayman Hussein est resté 7 heures à l'aéroport contrôlé, on a fouillé son téléphone et le photographe de la Fédé, lui, a dû faire demi-tour. Donc c'est malheureusement ciblé, j'allais dire, et on attend que la France arrive d'ici 2h30 à Boston, mais il n'y a pas une inquiétude particulière pour les Bleus.
Merci Valentin. Oui, ils arriveront aux alentours de 20h30-21h sur le sol américain. Merci Valentin. C'est la VAR de Rotten sans flamme. Jérôme, Steve, Duga, les problèmes de visa, le traitement réservé à l'Iran, est-ce que les joueurs doivent manifester leur mécontentement? Est-ce que les joueurs doivent prendre position, Jérôme, ou c'est pas leur rôle?
C'est difficile quand t'es un homme de terrain, on l'a été, quand il y a des problèmes dans d'autres avec d'autres nations, quand il y a des problèmes au gouvernement de certains pays ou certains clubs, problèmes avec les arbitres, là c'est le cas avec l'arbitre somalien. C'est compliqué quand t'es joueur de foot de prendre position, parce que je te dirais que si il y a qu'une qu'un pays ou un deuxième pays qui se greffe à ces problèmes-là, les autres, il va rien se passer en fait. Donc il faut faire une grève collective.
C'est dur de faire un mouvement collectif.
Et ça, franchement, quand tu sais que la Coupe du Monde, elle commence demain, ces soucis-là, on en avait parlé hein, déjà avec tout ce que Trump a voulu mettre en place. On l'a vite compris que Trump, c'est lui qui maîtrisait la Coupe du Monde, contrairement à d'habitude où normalement c'est la FIFA qui doit maîtriser et instaurer sa politique, le fair play, tout ce qu'il y a, la lutte contre le racisme, parce qu'à l'arrivée, il y a un peu de ça dans tout ce qu'on entend. Sûr. Donc, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que la FIFA, ils prennent pas leurs responsabilités. Mais maintenant, on a vite compris que de toute façon, Infantino, c'était juste un objet et que Trump, il en faisait ce qu'il voulait. Après, à côté de ça, t'as les arbitres, parce que là, tu me parles, il y a différents cas.
T'as raison.
Ce qui arrive aux Iraniens est un pur scandale. Dans tous les cas, déjà avec ce qu'ils vivent, mais là, dans ces conditions-là, faire une Coupe du Monde, déjà pour les joueurs iraniens, j'imagine que ça doit être très très compliqué de se concentrer un max en pensant qu'au football, parce que on est tous des êtres humains, les joueurs de foot, et donc forcément, t'es impacté avec ce qui se passe dans ton pays. Après, à côté de ça, donc ça peut toucher les joueurs, en effet, et ils peuvent se braquer et se mobiliser pour dire non mais tout, écoutez, les conditions des Iraniens, c'est un scandale, mais ça aurait dû être fait déjà bien avant.
Après, il y aura certainement des questions en conférence de presse.
Et puis, oui, non, mais après,
aux joueurs leaders et capitaines.
Et puis, à côté de ça, les arbitres, ils attendent quoi en fait pour se manifester? Parce que
ils sont réunis à Miami.
Aujourd'hui. Même s'il
n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match.
On le dit, voilà. Exactement. Autant, c'est vrai qu'on peut jouer au football sans arbitre, mais des matchs officiels, comme la Coupe du Monde ou tous les autres matchs, c'est impossible. Si ils sont tous solidaires avec l'arbitre somalien qui a fait l'aller-retour et qu'on lui reproche des choses qui dépassent le cadre sportif. Là, on parle de sport, on parle de l'événement planétaire le plus regardé au niveau sportif. Et là, on fait de la politique. La géopolitique, on confond en fait. Et c'est ça le problème. Et que les joueurs aujourd'hui, en effet, on a forcément une part de responsabilité de ce qui se passe. Donc si toi, tu te braques pas, mais ensemble, il faut être solidaire, encore une fois, et c'est pas facile. Ouais. Et c'est pas facile. Mais si tu fais pas une action forte, mais forcément, ça va passer comme une lettre à la poste. Bah, c'est ça qui est dommage.
À chaque fois, on s'en prend aux joueurs.
Non,
à chaque fois, c'est les joueurs qui
doivent.
Non, mais personne ne prend son courage à deux mains. Je comprends, Jérôme, ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on a le même avis. Mais punaise, la FIFA, excuse-moi, ils se dégonflent.
Exactement.
Ils se font dessus. Tout le monde a peur de Trump. Tout le monde, n'ose rien faire. Il faudrait encore que ce soit les joueurs qui prennent le flambeau. Mais les joueurs, ils y sont pour rien. Au bout d'un moment, que chacun prenne ses responsabilités. Non, mais il y a deux principes sacrés et fondamentaux quand un pays reçoit la Coupe du Monde. C'est le premier, c'est la sécurité. Et la deuxième, c'est d'assurer, c'est d'accorder des visas d'entrée à tous les officiels de la FIFA. Ils le font pas, c'est un pur scandale. Alors tu peux pas arrêter la compétition aujourd'hui, mais c'est un pur scandale. Au moins la FIFA, qu'elle fasse une déclaration musclée. Mais pas de se coucher comme ça devant Trump.
Il dira rien ce soir, Gianni Infantino.
Mais comment tu peux vouloir que les joueurs fassent quelque chose alors que les arbitres et la FIFA eux-mêmes ne font rien du tout? Encore une fois, il faut que les joueurs font, mais à chacun de prendre ses responsabilités. Les arbitres, prenez votre responsabilité et la FIFA également, avant de penser à ce que ce soit encore les joueurs qui doivent agir. Les joueurs, ils sont là pour préparer leur Coupe du Monde, pour jouer, pour se concentrer. C'est pas leur rôle. Je suis désolé, c'est pas leur rôle. Je suis choqué. Ils se caguent tous de Trump, mais il faudrait que les joueurs, ils montrent qu'eux, ils ont
ce qu'ils font
pour y aller. Ils peuvent laisser tranquille les joueurs.
Comme on dit tous, si tu veux, c'est pas remettre la. Moi, je remets pas la question d'un pays souverain dans leur politique. Moi, je prends pas ce parti-là. Moi, j'ai été au Qatar, je me suis soumis aux réglementations. J'ai été aux États-Unis, je me suis soumis aux réglementations. J'ai été en Russie, je me suis soumis aux réglementations. La question, elle n'est pas de savoir s'ils ont tort ou raison. C'est pas ça. C'est la FIFA, en accordant l'attribution de la Coupe du Monde, des dernières Coupes du Monde, savent qu'il y a des spécificités à chaque pays sur des politiques internes. Tu sais déjà, là, il y a quelques mois, qu'il y a 19 pays qui sont sur une liste rouge pour les États-Unis. Donc tu sais très bien que tu vas avoir un problème, que ça soit des officiels, journalistes, spectateurs, tout, même voire peut-être potentiellement tes joueurs. Mais moi, je suis désolé, je suis comme du gars. Mais quelle honte cette organisation internationale du football!
Et quel, moi je vais même aller encore plus loin. Mais c'est une imposture limite de l'escroquerie que ce président reste encore en place.
Gianni Infantino. Ouais.
Mais on parle dernièrement sur des faits peut-être beaucoup plus graves. On remet en question des politiques qui doivent rester à leur place. Mais là, cet homme, mais il n'a pas de figure. Il doit démissionner sur le champ s'il n'arrive pas à régler le problème.
Il a remis le prix
officiels.
Nobel de je ne sais pas quoi.
Le prix FIFA de la paix. Donc
moi, tu vois, Benoît, donc moi, Benoît, tu me dis, les joueurs, ils ont déjà ça à faire. En sachant que s'ils commencent à prendre position sur Trump, tu sais ce qu'il peut leur faire ? Ah ouais, d'accord. Bah, tu sais quoi, toi, tu dégages. Tu joues plus avec ton équipe, tu dégages. Enfin,
c'est
je te casse ton visa.
Absolu. Si tu envoies une équipe, tu te rends compte.
Mais c'est pas ça. Mais je te parle pas d'une équipe, d'un joueur. Parce qu'en fait, Benoît, on minimise le truc. Mais c'est déjà un scandale d'État.
Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on
parce
en parle.
Parce que la FIFA, on parle du 200e, État international. Mais aujourd'hui, ce président doit dégager.
Et il y aura des réélections à la FIFA en 2027.
Ouais, en sachant qu'il a une plainte au cul par Platini. En plus. Ouais. Donc moi, je le dis honnêtement, c'est un escroc. Ça se sent direct. Il est habité par l'argent. On a vu les trois. Alors oui, il faut avoir de l'argent. C'est les pays émergents qui peuvent le plus abonder sur les coupes du monde pour organiser tout ça. Mais attendez, mais vous, en fait, on se vend à l'argent. Qu'à l'argent. Donc en fait, on n'a plus, honnêtement, moi je vais être très dur, on n'a plus de respect. Autant pour les Jeux Olympiques, j'écoutais tout à l'heure des gens qui parlaient qui ont fait les Jeux Olympiques, des athlètes qui disaient qu'il y avait une sorte de bulle olympique qui protégeait justement ces villages.
La parenthèse olympique.
Ouais. La parenthèse olympique. Mais nous, on l'a dégagé. Donc nous, en tant qu'anciens joueurs, on peut en parler, on peut se positionner. Mais qui va demander ? Parce que je les vois encore, les politiques, là. Toute la semaine, toutes les deux semaines qui vont arriver. Oui, les joueurs de foot, ils devraient se positionner, c'est les premiers acteurs.
Ah bah, il y a moins de critiques sur la Coupe du Monde aux États-Unis qu'au Qatar.
Mais fermez votre gueule. Fermez votre gueule. Les joueurs, ils ont autre chose à faire à se positionner. Ils ont déjà des choses à faire.
C'est l'appel du 10 juin, là.
Ah ouais, non, mais moi, je sans déconner.
Après De Gaulle, Steve Savidan.
Ouais, mais moi, en fait, les gars, faut qu'on mette les pieds dans le plat à un moment donné. Ce mec-là, il est à la FIFA, c'est un escroc, c'est rideau.
Les pieds, tu les mets.
Tu sais ce qu'on va faire?
Tu mets pas mes pieds dans le plat.
On va proposer ta candidature pour les GG des RMC, le producteur. Parce que Gerbier sera avec nous dans un instant, on va lui soumettre ta candidature.
En fait, tu sais ce qu'on va être obligé de faire ? Encore. Non, mais pour cette Coupe du Monde, les gars, faut pas oublier, le Qatar, il faut savoir qu'il y avait une atteinte aux droits fondamentaux humains pour la construction des stades contre les lois LGBT. Tout le monde a fermé sa gueule. La Russie, c'était pareil. Et là, aujourd'hui, il y a une politique migratoire qui refuse et qui limite du racisme. Et là, mais personne se soulève. Ouais. Mais moi, je suis désolé. Normalement, là, tu devrais avoir. Mais non, mais tu devrais avoir le président somalien. Mais là, qui devrait parler. Tu devrais avoir le président de la comment s'appelle la fédération africaine.
La CAF.
La CAF. Mais il devrait péter un câble.
Ah ouais, oui.
Là, c'est le hashtag Stevie OGG. Il est lancé sur nos réseaux sociaux.
On s'en rend pas compte, mais c'est une honte.
Après,
moi, je te dis bien, Benoît,
ça continue.
Moi, je remets pas la question de la politique interne. Ça me regarde pas. Chaque pays est souverain, fait sa politique, il a été élu, il se démerde avec leur truc.
Par contre,
pour l'organisation de la Coupe du Monde qui a été attribuée lors du premier mandat de Donald Trump, faut pas oublier, hein. Il savait comment ça allait se passer. Parce que c'est pas un autre président, Biden ou Obama, qui aurait changé la politique migratoire.
Ça, c'est dit, Steve. Bravo. Voilà. Incroyable.
Il pas changé ça non plus.
Magnifique.
Les États-Unis, j'ai mon fils, il s'est fait bamer.
Quelle intervention.
Il s'est fait bamer
des États-Unis. Louis Gerbier, il est bouche ouverte. Il est producteur des GG tous les jours sur AMC.
Alors, moi, je vais revenir sur les Sénégalais.
Vraiment, ça continue.
Non, mais je vais
continuer.
Moi, c'est bouche ouverte,
c'est que j'ai le micro.
Regarde, du gars. Moi, Sénégalais, qu'ils ont vécu. Non, mais les Sénégalais, ce qu'ils ont vécu, moi, je l'ai vécu lors d'un match amical où on a joué avec Emmanuel Macron avec le Variété. Moi, je suis désolé, les services spéciaux français, ils ont mis les chiens, on avait tous nos sacs devant, parce qu'à ce niveau de risque, la confiance n'empêche pas le contrôle. Nous, on l'a vécu. Moi, les Sénégalais qui me disent, ouais, ben, on s'est fait fouiller à la sortie de l'avion. Bah, j'ai envie de te dire, bah ouais, bah c'est comme ça le pays. Tu cherches même pas à comprendre.
Je suis chaud, mais moi.
Et ça s'arrête, là, c'est bon.
J'aurais dû me prendre pour qui, moi, à me dire.
Et on fera pas de quiz ce soir.
Le service secret du président Macron, il nous a tous mis là. Il y avait des stars internationales.
Bon, j'appelle Julien Cazard, tu vas faire la libre antenne. J'attends 2 heures d'édito.
Moi, ça me fatigue. Pour demain, parce que moi, je les vois les
présidents. Steve,
président. Moi, si tu veux, j'en ai marre qu'on demande toujours. toujours.
Ah, mais continue, il s'auto-relance en plus.
Va te coucher, Infantino.
Moi, c'est dingue. J'ai envie de voir les politiques aussi.
Mais coupez-lui le sifflet, en régie, là-haut.
Ils ont d'autres sujets qui sont peut-être plus importants en ce moment. Avec les enfants, avec la pédocriminalité et tout ça, machin. Mais là, on les entend pas parler, là, se positionner.
Bravo, Steve.
Alors, Steve, tu continues dans un instant.
Ah, ça y est, il est fini.
Allez, et c'est le quiz de Louis Gerbier, tous contre Roten. Allez, à tout de suite sur RMC. J'espère que vous êtes encore là.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h49 sur RMC, oui, on est là, vous inquiétez pas.
Il faut pas me chauffer, hein.
Non.
Ah, il a fini sa tirade, ça y est.
Quel moment de radio. Alors là, je suis beau. Quel moment de radio. J'ai engueulé tout le monde à la
fin. On est toujours avec Christophe Barbier, Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Écoute, on va passer un excellent quiz parce que on a la chance d'avoir
tout seul pendant 5 minutes.
D'avoir le
produit couche tout seul.
Ah non, mais Dugas, on a le producteur des GG et là il va.
Alors, salut Louis Gerbier.
Salut Louis.
Salut l'équipe. Est-ce qu'il est recruté pour la saison prochaine?
Ah là, je pense que c'est une évidence là. Là, je vois bien une petite tablée Charles Consigny, Fatima Aïd-Bounoua
et Steve Savidan. Et Steve Savidan.
Ouais. Bah là, ça fait un intro, mais. Surtout que Steve, il va prendre la place de pour deux.
Steve.
Même pour trois.
Je te félicite, Steve, t'as eu ta meilleure note de la saison, décernée par Jérôme Bretel. Ah ouais. T'as eu 9 sur 10.
Ouais.
Non.
À ton échelle,
c'est largement mérité. En plus, comme je sais qu'il est jamais honnête, la semaine dernière, il me met 3.
Mais non,
non il t'a mis 9 à l'échelle de Steve. Donc je suis la moitié de la note.
Je suis honnête. Et l'édito était fantastique.
Bravo, Steve, tu nous as régalé. Allez, c'est parti pour le coup.
RMC. Tous contre Roten.
Allez, s'affrontent ce soir Vincent et Adrien. Salut à vous deux.
Salut Vince. Bonsoir. Salut Adrien.
Oh, Vincent, t'es supporter du PSG, back to back, tout.
Allez,
ça.
Tu veux jouer avec
Jérôme?
Il va chanter dans deux minutes. Je sais qu'il
va chanter. Ah, il dit pas oui. Hein. Vincent, tu veux jouer avec Jérôme?
J'ai pas entendu. Ouais. Allez. Non, je voulais jouer avec le reste du monde.
C'est vrai?
Ah,
c'est incroyable. C'est possible.
Back.
Okay. Back.
Adrien, désolé, allez, tu vas jouer parti avec Jérôme. Hein.
Pas de soucis, je l'avais vu jouer en plus à l'époque où il était venu avec le père Paris Saint-Germain quand Grenoble était en Ligue 1.
Eh oui, c'est un supporter du GL38.
Il y a eu un 0-0, je crois.
Tous les centres étaient partis dans les Alpes. Les centres étaient partis dans les Alpes.
Allez, on joue. Magnifique cadeau.
Allez, on y va. Merci du gars, on y va.
C'est parti.
Le thème du soir, les Coupes du Monde des Bleus, là, parce que c'est le moment de bosser un peu, voir si vous avez révisé vos Bleus avant de commencer la Coupe du Monde.
Allez, vas-y.
Question flash pour débuter. Les Bleus enchaînent leur 8e Coupe du Monde consécutive, mais combien en ont-ils joué en tout?
17.
Oh, bonne réponse.
C'est un tout pile.
C'est un tout pile.
Ce soir, c'est incroyable.
Sérieux, c'est un vrai
1-0 pour le reste du monde.
Mais je suis trop fort, du gars, j'arrête là-dessus. Je peux faire que pire.
Allez, va te présenter au municipal maintenant. Ouais, question Larquet.
Francisca, code de Kinovel pour les jeunes Kinovel.
Gerbier, t'es un truand.
Et je vous emmène en 1958, Jean-Michel passait le permis.
Ouais.
Quel joueur marque un triplé et élimine les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 58?
C'est que c'est une légende du foot, si vous le demandez.
Beckenbauer?
Non, 58.
Pelé,
bonne réponse.
Pelé.
2-0 pour le reste du monde et pour Vincent, il a bien fait. Vincent.
Et 58, on a eu Juste Fontaine, meilleur buteur de la Coupe du Monde, 13 buts.
Et exactement.
Bravo.
Exactement.
2-0 pour le reste du monde.
Et pour
les Bleus enchaîneront deux éliminations au premier tour avant de retrouver les demi en 82. Question auditeur.
Ah, Vincent contre Adrien.
Vincent, Adrien. Facile. Quel joueur français se fait percuter par le gardien allemand en 82?
Il conduisait une Formule 1 avant.
Non,
ça c'est le gardien. C'est pas
Schumacher.
C'est le gardien qui a percuté, mais
on cherche le défenseur français qui s'est fait percuter.
Moses.
Non.
Mais t'as la bonne première lettre.
Baptiston.
Patrick Baptiston.
Qui a dit Baptiston?
Salut toi,
Adrien.
Allez, réduction de l'écart. 2-1 pour le reste du monde.
Tiens, Patrick Baptiston, dans quel club jouait-il à l'époque? À ce moment-là.
Bordeaux.
Monaco.
Non.
Baptiston.
Ouais. Pile à ce moment-là.
Bonne
réponse.
3-1 pour le reste du monde. Jérôme, t'es pas dans ta Coupe du Monde.
Question pour le patron.
RMC.
Merci à Louis aussi. Mais tout le monde peut y répondre. Le quiz, même si j'ai perdu. Non. Ah ben non, j'ai gagné. J'ai gagné.
La question pour le patron.
Alors, en 86.
Question pour le patron, 86.
J'avais 8 ans. T'inquiète. En 86, quel frère d'un ancien parisien les Bleus éliminent-ils au tir au but?
Ah bah oui.
Luis Fernandez.
Non.
Non. Le frère d'un ancien. Si,
on l'a reçu. On a reçu le frère dans Rotten sans
Je peux répondre au moins. Oui, ah oui, tout le monde.
Rail.
Oui.
Socrates.
Bah oui,
Socrates.
C'est la meilleure passe dé que t'aies jamais fait.
Bien joué, du gars.
T'aurais pas dû répondre, Jérôme.
Question Samidan.
Ah, question Samidan.
C'est pas forcément Florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
On sait ce que c'est.
Je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur. Tu fais que des clubs pas hyper Florichon.
Un peu comme Steve.
Ouais, c'est ça.
Mais bien meilleur sur les idées.
On cherche un joueur titulaire lors de ce match contre le Brésil, 86. Oui. FC Sochaux, Stade Rennais, Toulouse, Girondins de Bordeaux,
Gengini.
AS Cannes.
Stopira.
C'est un quiz magnifique, il y a trois partout.
Et bah, pose fraîcheur, tiens.
Ah.
Ça fait du bien. La question hors thème, quel joueur va devenir directeur du football du Havre?
Ah, facile.
Dembaba.
Et bonne réponse.
4, 3, pour Jérôme et Adrien.
Bon, on va faire.
Attends, la balle de la finie.
C'est statu quo là.
Je suis devant.
Non, je crois pas que c'est statu.
Stop.
Statu quo.
Yeah. On touche à rien.
Crucifié. Alors là, c'est à la fin, t'as pas de chance. Il choisit, lui, les résultats de la route.
La roue s'est arrêtée juste.
Et on emmène la roue au Flora dès demain.
J'aimerais bien la voir, moi, tiens.
Victoire d'Adrien. Grâce à Jérôme, Adrien, tu remportes ce magnifique cadeau.
Bravo, Adrien.
Jouez sur RMC avec Homer, des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
Merci à Louis Gerbier.
Merci à Douteux.
Merci à Christophe Barbier.
Merci à
Samidan. Merci à Dugas.
Bientôt dans les grandes gueules.
Bon courage. En tout cas, voilà. On te le laisse.
Dans un instant, c'est Génération After avec Simon Dutin. On ira aux États-Unis retrouver tous nos envoyés spéciaux. La Coupe du Monde, c'est demain. Et elle démarre dans Rotten sans flamme sur RMC.
Elle démarre dans Rotten sans flamme demain. Émission exceptionnelle. Ça y est, on a notre lieu. On sera au Flora Brasserie, au cœur de Paris, au centre de Paris, Grand Boulevard. Donc on vous accueille avec grand plaisir. On sera là tous les jours de 18h à 20h du lundi au vendredi. Demain, c'est le début de la Coupe du Monde. Grande émission. Allez, c'est reparti. On est reparti pour une grande compète. Allez les Bleus, et on va se régaler. À demain, 18h.
RMC, Coupe du Monde de Football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans un jour. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.